Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre série, La victoire finale. Nous arrivons à l'étude numéro 8. Et le titre de notre étude sera Son repos annonce la gloire. Je répète, son repos annonce la gloire. Dieu nous parle par le moyen de sa sainte parole éternelle. Il parle à un peuple qui sera sur terre lors d'un bouleversement mondial. Écoutons ce qu'il dit dans le psaume 46, versets 1 et 2. Dieu est notre refuge et notre force, un secours dans les détresses, toujours facile à trouver. C'est pourquoi nous ne craindrons point quand la terre serait transportée de sa place et que les montagnes seraient remuées et jetées au cœur des mers. Pour ceux qui ont Internet, ils peuvent consulter Bible explique en un seul mot, Bible explique, je ne sais pas si c'est .ch, parce que je n'ai pas Internet. Donc je répète, Bible explique, .ch. Et là, vous pourrez trouver toute une série concernant la fin des temps et tout ce que vous pouvez trouver dans la Sainte Bible, que ce soit Joël, Ézéchiel, Apocalypse, tout. Et je vous prie de chercher pour trouver cela. Certainement, c'est possible. Je continue donc notre étude. Dieu promet à ceux qui se trouvent en plein centre d'un épouvantable chaos que sa présence sera pour eux un refuge. La raison en est qu'il est présent. Et le mot « présent » doit être compris de deux façons. Il est ici avec moi, et il est maintenant avec moi. Il est présent dans le temps aussi bien que dans l'espace. Il est ici maintenant. Nous ne connaîtrons pas à cause de cette présence manifestée, tangible même, et qui est au milieu de nous. Aucun d'entre nous, que vous soyez une femme ou un homme, a besoin de craindre que cette présence, elle est une réalité, elle est tangible, et elle se trouve au milieu de nous. Au verset du psaume 46, versets 4 et 5, il est écrit « Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu, le saint lieu des tabernacles du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne sera pas ébranlée. » Dieu la secourra et il va la secourir au lever du matin. Ce fleuve apportant la joie coule de la gloire de Dieu. On voit qu'il coule au milieu des saints tabernacles de Dieu. Cela ne peut faire allusion que à nous qui sommes son peuple. Alléluia. Nous sommes le seul endroit à multiples tabernacles qu'il ait habité. Dans l'Ancien Testament, il occupait un seul tabernacle, celui construit par des mains d'hommes. Nous sommes les tabernacles de Dieu non construits par des mains. Il parle de sa présence au milieu de nous comme étant un fleuve. Et si ce fleuve doit jaillir à partir d'un petit ruisseau, il nous faut nous tenir tranquilles et savoir qu'il est Dieu. Psaume chapitre 46, verset 10. Il nous faut cesser les combats, cesser de réclamer bruyamment le secours. Arrêtons-nous, permettons à sa présence de surgir de cette petite chambre qu'est notre cœur. Non seulement sa présence sera pour nous un refuge, mais elle nous communiquera la joie et le bonheur au milieu des épreuves. Cette présence doit croître, croître comme un fleuve débordant des cœurs et des âmes de son peuple que nous sommes pour couler sur le monde. Le but de Dieu, voyez-vous, c'est d'atteindre le monde au moyen de ce fleuve. À partir de notre repos en lui, Dieu suscitera des fleuves de puissance, oui, des fleuves qui pourvoiront et des fleuves de gloire. Car là où Dieu trouve son repos, sa gloire se manifestera. Ésaïe chapitre 11, verset 10 nous dit très clairement que son repos sera la gloire. C'est là l'accomplissement de ce que Dieu veut faire en nous et ensuite au travers de nous. Son plan éternel, c'est que sa présence et sa gloire soit manifestée sur cette terre à l'heure où tout sera ébranlé autour de nous. Cette gloire, semblable à celle qui couvrait l'arche du tabernacle dans l'Ancien Testament, elle est encore appelée un fleuve, et cela dans Ésaïe chapitre 33, verset 21. Lisez tranquillement, mais là l'Éternel est pour nous magnifique, un lieu de fleuve, de larges rivières. Il n'y viendra aucun vaisseau à rames, aucun noble navire n'y passera. Le prophète voyait donc le fleuve de la glorieuse présence de Dieu, coulant comme des rivières. Mais rien de ce qui est au travail ou des efforts humains ne pouvait souiller ce fleuve. Seuls ceux qui, dans son repos, ont abandonné leurs efforts personnels, oui, leurs bonnes œuvres religieuses, qui ont placé leur confiance uniquement en Jésus, son œuvre accomplie et en sa grâce, feront partie de ce fleuve. Le vaisseau à rames était un bateau manœuvré par des esclaves, les galériens. C'est une image de l'esclavage et de la lutte humaine. Cela correspond à la vision d'Ézéchiel du sanctuaire de la gloire de Dieu, où rien de ce qui est fait transpirer l'homme ne pouvait y pénétrer, je répète. Cela correspond à la vision d'Ézéchiel du sanctuaire de la gloire de Dieu, où rien de ce qui fait transpirer l'homme ne pouvait y pénétrer. Du reste, il est dit en Ézéchiel, chapitre 44, verset 18, « Ils auront des turbans de lin sur leur tête et des caleçons de lin sur leurs reins. Ils ne se ceindront pas avec ce qui fait transpirer. » Voyez-vous, la sueur, elle nous parle de labeur charnel. La gloire de Dieu descend dans un lieu de repos. À partir du moment où nous entrons dans son repos, nous faisons l'expérience de sa merveilleuse sollicitude, sa protection, sa puissance. Oui, tout est là pour que nous en bénéficions. Mais Dieu exige quelque chose de nous, évidemment. C'est ce que nous soyons pleinement établis dans son repos, que nous soyons fondés et racinés en lui. Ce n'est que alors qu'il pourra être au repos en nous. Voyez-vous, nous avons fait une demeure pour lui dans nos vies, et c'est là, dans ce lieu, que sa gloire se manifestera de plus en plus. Il fait sortir un peuple du combat pour le placer dans son repos, puis dans sa gloire, car son repos sera glorieux. Nous avons petit à petit développé une pensée plus profonde. Le repos et la gloire de Dieu doivent être en nous, doivent être transmis au travers de nous. Ce n'est pas une prérogative qui nous est réservée, mais cela est destiné à un monde qui souffre. La gloire de Dieu visitera la terre comme un fleuve de bénédiction, mais c'est à travers nos entrailles que ce fleuve coulera sur la terre depuis la présence de Dieu. Dans Ézéchiel, au chapitre 47, il est question d'un fleuve de Dieu coulant du sud de l'autel, apportant la vie, apportant l'abondance et la gloire dans le pays. Partout où il passe, il y a la vie. Ce fleuve a sa source en Dieu. Il coule au travers de nous et se déverse sur la terre. Nous sommes les aqueducs vivants du Seigneur pour arroser spirituellement le pays. Le psalmiste chante de ses chambres hautes, il abreuve les montagnes. Psaume 104, verset 13. Dieu habite en nous par son Saint-Esprit. Nous le portons en nous là où nous allons. Nous devons permettre à sa bonté de couler de notre être comme un fleuve. Le potentiel extraordinaire de Dieu en nous a été trop longtemps étouffé par notre nature charnelle. Il nous faut donner la priorité dans nos vies à ces fleuves de bénédiction. Mais comment y parvenir ? c'est sûrement là notre désir. Mais en fait, comment laisser couler au travers de nous, librement et continuellement, la gloire de Dieu telle un fleuve vivifiant? Eh bien, les Saintes Écritures nous donnent la solution réalisable. Elles font le rapprochement entre la louange, l'adoration et la gloire de Dieu manifestée dans la nuée. Les Lévites transportaient l'arche et ils la portaient de manière tout à fait particulière en utilisant des barres de bois. Exode chapitre 37 versets 4 et 5 nous dit « Et il fit des barres de bois de sittim et les plaqua d'or. Et il fit entrer les barres dans les anneaux aux côtés de l'arche pour porter l'arche. En anglais, le mot bar, staff, peut aussi signifier le soutien. Une barre de bois était donc utilisée pour transporter l'arche pour les Lévites de Dieu. Le soutien de la vie. Chers amis, nous devons associer ce soutien, nous devons l'associer avec le transport de l'arche. On nous dit dans Proverbes chapitre 15, verset 4, une langue douce est un arbre de vie. Le mot pour arbre ici signifie aussi soutien de la vie. Soutien de la vie. Dans l'Ancien Testament, l'arche était transportée par des barres sanctifiées et destinées à cette seule fin. Dans le Nouveau Testament, l'arche de la présence de Dieu en nous est transportée par les langues douces des Lévites spirituels de Dieu. La langue, lorsqu'elle est utilisée selon Dieu, elle est la seule partie de notre être charnel qui nous relie à la gloire de Dieu présente dans les profondeurs de notre sein, notre lieu très saint personnel. Nos langues sont donc comme la mèche de la lampe du Saint-Esprit en nous. Dans les psaumes, à 5 reprises, la langue est appelée notre gloire. Elle nous transporte dans la gloire de Dieu en sa présence. Considérons le psaume numéro 100, le psaume 100, qui nous dit précisément comment nous servir de nos langues, ces barres spirituelles portant le sanctuaire qui est en nous. On nous dit, premièrement, de passer, et plutôt, excusez-moi, de pousser des cris de joie. Je répète, on nous dit, premièrement, que nous devons pousser des cris de joie. Deuxièmement, de venir devant lui, devant Dieu, avec des chants de triomphe. Troisièmement, que nous devons entrer dans ses portes avec des actions de grâce dans ses parvis, et cela avec des louanges. Nous pouvons entrer de cette manière-là dans notre sein des saints intérieur. Cette arche de sa présence est aussi appelée la fontaine du salut. Jésus en a parlé ainsi dans Saint Jean, chapitre 4, verset 14, où il a dit « Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. » Vous avez entendu, une fontaine d'eau jaillissant en vie éternelle. Puis dans Saint Jean, au chapitre 7, verset 38, il dit « Des fleuves d'eau vive, couleront de son sein. » Nous libérons l'eau de cette fontaine du salut lorsque nous utilisons nos langues dans l'adoration, dans la louange et dans les actions de grâce. Chacun de nous, si nous appartenons à Christ, possède un tel puits. Mais nous ne savons pas comment en libérer les eaux afin de bénéficier plus abondamment de ces bénédictions. Ésaïe au chapitre 12, versets 3 et 6, décrit de façon vivante comment nos langues et nos voix libèrent l'eau de ce puits ou de ces puits. Il est dit « Et vous puiserez de l'eau avec joie aux fontaines du salut. Poussez donc des cris de joie et exulte, habitants de Sion, car grand au milieu de toi est le Saint d'Israël. » Quelqu'un a dit que notre joie devient notre sceau, puisque les anciens puits avaient en effet un seau pour puiser l'eau et que nous la puisons avec notre joie. Nous devons pousser donc des cris de joie. Quand nous louons à haute voix, les eaux intérieures jaillissent et communiquent la vie. Elle communique la vie partout où elle coule. Nos puits intérieurs sont souvent bouchés par des détritus de notre existence charnelle. Ceux-ci doivent donc être éliminés pour que le Saint-Esprit puisse couler puissamment. Et là aussi, nos langues seront l'outil utilisé comme débouchoir à nos puits obstrués. Dans le livre des Nombres, au début de votre Bible, les enfants d'Israël étaient rassemblés autour d'un puits à Béer. Le Seigneur avait dit à Moïse qu'il leur donnerait de l'eau à cet endroit, et pourtant, en y arrivant, ils ont vu qu'il n'y en avait pas du tout. Le puits était donc recouvert de sable, et ils ne le voyaient pas. Mais ils savaient, oh oui, ils savaient qu'il se trouvait là, même s'il était pour l'instant caché. Puis il se passa quelque chose d'assez merveilleux. Les enfants d'Israël se mirent à chanter. Ils se mirent à chanter au puits et les princes du peuple se sont mis à creuser avec leurs bâtons. Nombre chapitre 21, versets 17 et 18 nous dit « Alors Israël chanta ce cantique, monte, puis chante-lui, monte, puis chante-lui, puis que des princes ont creusé les puits, que des princes ont donc creusé. Mais les hommes nobles du peuple ont en effet creusé avec leurs bâtons. Et tous, vous et moi, nous avons plutôt envie de chanter après que les eaux se soient manifestées. Il est donc question de nos puits intérieurs. Mais le problème est le suivant, que c'est un fait que nos puits peuvent se boucher. Nous sommes constamment exposés à un environnement hostile à l'Esprit Saint de Dieu, et le résultat est que nous perdons notre joie, cette joie qui est notre force. Et c'est alors que nous devons chanter à notre puits, nous devons amorcer notre pompe en nous servant de notre langue pour en libérer les eaux. Nous devons déloger les déchets avec nos bâtons. Nos langues sont donc ces barres qui ont le pouvoir de nous transférer du domaine naturel au domaine spirituel, c'est-à-dire du naturel au surnaturel. Oui, nos langues sont le moyen instauré par Dieu pour nous faire entrer à nouveau dans sa gloire. Quand l'arche de l'Alliance a été amenée à sa destination dans le temple de Salomon, les barres retirées des anneaux furent placées à l'intérieur du voile et seules leur extrémité dépassait du Saint-Lieu. Ces barres reposaient donc un bout dans le sanctuaire et l'autre bout derrière l'épais voile dans le lieu très saint. Pourquoi cela? Eh bien, il était interdit de pénétrer dans le Saint des Saints, sauf une fois par année, et encore par un seul homme, c'est-à-dire par le souverain sacrificateur. Il y avait toujours la possibilité que l'arche dût être déplacée, et ce fut le cas au temps de Jérémie, à cause de la guerre et de l'imminente destruction de son lieu de repos dans le temple. Les barres dépassant dans le sanctuaire autorisé aux Lévites permettaient donc l'accès continuel à cette précieuse arche. On pouvait donc la déplacer en se servant des barres. Ce qui est à l'intérieur du voile représente, écoutez bien, représente le monde de l'esprit et le lieu saint représente le domaine de l'âme humaine, c'est-à-dire le domaine naturel. Par le moyen de nos barres, nous pouvons passer du domaine naturel au domaine spirituel à volonté. Nous pouvons entrer en sa présence avec nos chants. Nous transportons notre arche de gloire au moyen de nos barres, c'est-à-dire de nos langues. La gloire de Dieu habite donc en nous. Alors que nous commençons de le louer, eh bien sa gloire surgit. Dieu habite dans nos louanges pendant que nous louons, sa gloire se répand jusqu'à ce que notre être intérieur tout entier soit inondé de sa divine présence. Dans le psaume 68, verset 1, il nous est dit « Que Dieu se lève, que ses ennemis soient dispersés et que ceux qui le haïssent s'enfuient devant lui. » C'est à nous de permettre que cela puisse avoir lieu. Le moyen le plus simple de permettre à Dieu de se lever, c'est d'utiliser nos voix pour le louer. Celui qui est en nous se lèvera, répandant sa présence tout autour de nous. Il habite au milieu des louanges de son peuple. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 1, Ésaïe 60, verset 1, l'ordre nous est aussi donné. Lève-toi, resplendis, car ta lumière est venue et la gloire de l'Éternel s'est levée sur toi. Il ne nous est pas dit que cette gloire nous tombe d'en haut, mais qu'elle jaillit de l'intérieur de nous qui sommes son peuple. La gloire est donc en nous, mais nous devons lui permettre de se manifester. La gloire de Dieu a rempli le temple de Salomon le jour de sa dédicace et de la même manière, la gloire de Dieu se lèvera sur son peuple quand notre consécration sera absolument totale. La gloire de Dieu a franchi toutes les barrières ce jour-là. Elle se répandit du lieu très saint au lieu saint et jusque dans les parvis. Toute activité humaine s'est arrêtée et seul Dieu se mouvait merveilleusement alors que son peuple était prosterné dans un transport d'adoration. Chers amis, Dieu doit se lever en nous. La gloire de Dieu se lèvera ainsi du milieu de son peuple. Il se lèvera de son lieu d'habitation en nous et remplira nos pensées et nos cœurs. Nos corps physiques eux-mêmes seront profondément touchés et toute activité humaine cessera. Dieu agira merveilleusement. Oui, il fera des choses auxquelles nous n'aurions même pas pensé. D'où Dieu se lèvera-t-il? Eh bien, de son trône dans le ciel. Non pas du trône qu'on lui aura donné dans nos vies. Dans le psaume 132, verset 8, il est dit « Lève-toi, Éternel, pour entrer dans ton repos. » Son repos est en nous, en vous, en nous qui sommes son peuple, comme nous l'enseigne le psaume un peu plus loin, où il est dit « Car l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour être son habitation. » C'est ici mon repos à perpétuité. C'est ici que j'habiterai, car je l'ai désiré. Versets 13 et 14 du psaume 132. Permettez-moi d'insister là-dessus. Dieu cherche un lieu de repos en nous et ce lieu de repos doit être dans un cœur préparé. À la fin des temps, et nous y sommes bientôt, il se lèvera, lui Jésus-Christ, de son repos et il manifestera sa gloire sur la terre. Il en parle du reste dans Ésaïe, au chapitre 33, verset 10, où il est dit « Maintenant, dit l'Éternel, je me lèverai, oui, maintenant je serai exalté, maintenant je m'élèverai. » Donc, Dieu parle d'une manifestation surnaturelle de sa gloire sur la terre dans les derniers temps. Une manifestation où lui sera exalté, où Dieu sera exalté, non pas par la chair ou par notre activité humaine, ce sera totalement superflu. Notre activité humaine ne sera pas nécessaire face à sa grâce et face à sa puissance répandue de façon spectaculaire, comme au jour de la dédicace du temple de Salomon. De son lieu de repos, de ce lieu secret, il se manifestera dans son peuple. Oui, Dieu se manifestera dans son peuple que nous sommes. Dieu nous rassemble déjà, comme jamais auparavant, dans l'adoration et dans la louange. Parmi les nations, je vois combien est glorieuse la louange qui monte vers lui. Il se passe quelque chose dans les cieux lorsque le peuple de Dieu le loue. Quand nous nous unissons et que nous permettons à ce grand fleuve de gloire et de vie de se répandre au moyen de nos cris de joie, il se passe des choses dans les lieux célestes au-dessus de nous. Dieu crée le rapport entre ses sons joyeux, oui, il a créé le rapport entre ces sons qui sont joyeux, jaillissant de son peuple, et les nuages de gloire et de réveil apportent maintenant la lumière divine sur cette terre de ténèbres. C'est vous qui allait apporter la lumière divine sur cette terre de ténèbres. Dans Job, au chapitre 36, verset 27 jusqu'au verset 29, il est écrit « Car il attire les gouttes d'eau des vapeurs qu'il forme et elles distillent la pluie que les nuages font couler et ils tombent en gouttes sur les hommes abondamment. Mais qui peut comprendre le déploiement de la nuée? Qui peut comprendre le fracas de son tabernacle? Chers amis, avons-nous vraiment compris que la formation de ces nuages de pluie spirituelle se produit au moyen des grands cris de louange qui montent de nos assemblées, de nos églises? Il faut que nous le comprenions. Notre louange va créer la pluie qui doit se répandre sur toute chair. Notre louange condense une pluie de gloire pour en saturer cette terre comme elle n'en a jamais reçu jusqu'ici. Il est dit en Joël, au chapitre 2, versets 28 à 32, il est dit, et il arrivera après cela, que je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes hommes auront des visions. Et aussi sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit et je montrerai des signes dans les cieux et sur la terre, du sang et du feu et des colonnes de fumée. Le soleil sera changé en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le grand et terrible jour de l'Éternel. Et il arrivera que quiconque invoquera le saint nom de l'Éternel sera sauvé. Car sur la montagne de Sion, il y aura délivrance, et à Jérusalem, comme l'Éternel a dit, et pour les réchappés que l'Éternel appellera. Donc, cette effusion, elle doit venir sur toute chair. Les signes qui sont promis par Dieu, le feu, la fumée, nous parle des manifestations impressionnantes de sa gloire et de sa puissance au milieu des nations. La grâce sera-t-elle pendant ce réveil que quiconque, n'importe qui donc, invoquera Dieu sera délivré. À l'heure où l'iniquité sera à son apogée, le comble de la puissance du sang de Jésus sera manifesté, oui, la puissance pour sauver, pour guérir, pour délivrer des chaînes de l'esclavage et du péché. La puissance qui libère des pratiques et agissements diaboliques et qui augmente partout, alors que la nature humaine sombre de plus en plus dans la dépravation, eh bien oui, des milliers d'âmes doivent venir à Christ pendant ces prochaines années. C'est ça la sainte parole de Dieu qui le déclare. Il ne s'agit donc pas d'une simple probabilité. Non, non, non. Mais il s'agit d'une certitude aussi sûre que le lever du soleil demain matin. L'apôtre Jean, on peut aussi dire Saint Jean, il a vu ces milliers de personnes, et voici ce qu'il dit. Je vis, et voici une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation et de toute tribu et peuple et de toute langue. Se tenant devant le trône et devant l'agneau, ils étaient vêtus de longues robes blanches et ayant des palmes à la main. Et il me dit, « Ceux-ci sont ceux qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. » Notez Apocalypse chapitre 7, versets 9 et 14. Nous terminerons cette étude en disant que des multitudes de toutes les nations seront lavées et blanchies par le sang précieux de Jésus-Christ. Ceci n'a pas encore eu lieu, mais cela viendra très bientôt. C'est le prochain grand événement du calendrier de Dieu pour les âges à venir très bientôt. Chers amis, nous allons terminer cette petite étude par la prière. Prions. Seigneur, je t'offre tous les transports d'amour et de joie, les extases, les ravissements, les révélations, les visions célestes de toutes les âmes saintes avec les hommages que te rendent et te rendront à jamais toutes les créatures dans le ciel et sur la terre. Seigneur mon Dieu, reçois mes vœux et le désir qui m'anime de te louer, de te bénir avec l'amour immense, infini, dû à ton ineffable grandeur. Voilà ce que je t'offre et ce que je voudrais t'offrir chaque jour et à chaque moment. Et je prie et je conjure de tout mon cœur tous les esprits célestes et tous tes fidèles serviteurs de s'unir à moi pour te louer et pour te rendre de dignes actions de grâce. Que tous les peuples, tous les tribus, toutes les langues te bénissent et célèbre dans des transports de joie et d'amour la douceur et la sainteté de ton saint nom. Que tous ceux qui offrent avec révérence et avec piété les divins mystères et qui les reçoivent avec une pleine foi puissent trouver devant toi grâce et miséricorde. Et lorsque, après s'être unis à toi selon leurs désirs et être consolés merveilleusement, qu'ils daignent éternellement être reconnaissants. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Et chers amis, merci encore pour l'intérêt, pour l'amour, pour tout ce qui vous anime pour écouter, pour étudier ensemble, pour mieux comprendre les mystères de la Sainte Parole de Dieu. C'est pas toujours facile de tout comprendre, pour moi non plus. Mais le Saint-Esprit peut nous révéler au moment voulu, des fois c'est un peu plus tard, certaines choses que nous ne comprenons pas tout de suite. Eh bien, chers amis, soyez bénis et à demain matin, Dieu voulant, à nouveau, de nous revoir pour la prochaine étude qui sera comme titre sa gloire, la gloire de l'Éternel, la gloire de Dieu. Elle se trouve parmi nous. À bientôt, à demain matin. Au revoir. mes très, très chers amis. Au revoir.